maladie qui me passionne particulièrement, et en particulier au docteur Romain Corps. Et même venant de Rennes, je reste quand même plus breton que parisien, je rassure Romain. Je vous ai mis mes liens d'intérêt et je souligne quand même un ou deux liens. Savara, qui est le sponsor des études Impala 1 et 2 sur le Molgram Ostie Minalé, un GMCSF, donc, et le fait d'être co-auteur des recommandations internationales et coordinateur du PNDS en cours d'écriture. Donc voilà les recos qui sont en early view dans le RJ. Quelques mots sur la définition, la classification et un peu de physiopathologie. Donc la protéinose alvéolaire, c'est une maladie qui est liée à une accumulation des protéines et des lipides du surfactant, généralement par un défaut de clairance du surfactant par les macrophages alvéolaires. Et donc ça va progressivement gêner les échanges gazeux et ça fait le nid d'infections, on en reparlera. On a une classification internationale mais qui est un peu complexe et je vais vous parler plutôt de la classification française qui, à mon sens, est un peu plus pragmatique. Elle met en avant les protéinoses auto-immunes, qui représentent la grande majorité des protéinoses, celles qu'on voit le plus souvent, donc qui sont caractérisées par la présence d'anticorps anti-GM-CSF circulants. Ensuite, on a les protéinoses secondaires, qui sont souvent associées à des maladies, en particulier des maladies hématologiques, surtout les syndromes myélodysplasiques, mais également des infections chroniques et également des inhalations toxiques. Et puis, beaucoup plus rarement, en tout cas pour les pneumologues de l'adulte, des PAP génétiques, donc avec différents types de mutations, dont je ne développerai pas. On a des facteurs de risque environnementaux qui sont finalement peu développés dans les recommandations et dans les papiers internationaux. Le tabac est très fréquent. Les expositions à des fumées, des gaz et des poussières, notamment professionnelles, sont également présentes et ça fait partie intégrante de la prise en charge thérapeutique. On y reviendra tout à l'heure. Ce schéma est un peu complexe, mais globalement, vous avez en jaune ici le pneumocyte de type 2. Les pneumocytes de type 1 sont tout aplatis ici et le macrophage en violet. Le surfactant, notamment SPA, SPD, va être synthétisé par le pneumocyte de type 2. Vous allez avoir cette monocouche de phospholipides avec les protéines du surfactant à l'état normal. Et il y a un turnover avec, au sein des macrophages, les phospholipides qui viennent ici, le cholestérol estérifié. Et tout ça, c'est processé dans le macrophage. Le cholestérol non estérifié va repartir vers le foie. Donc ça, c'est quand ça fonctionne bien. Et lorsqu'il y a des anticorps anti-GM-CSF qui vont bloquer la transduction du signal au niveau des macrophages, ils ne se différencient plus en macrophage alvéolaire. Donc ils perdent des fonctions, notamment les fonctions de catabolisme du surfactant. Et on va avoir cette accumulation et de surfactants dans les alvéoles pulmonaires avec la perte de la monocouche et une accumulation de ce surfactant et au sein des macrophages qui deviennent spumeux, le cholestérol estérifié qui les rend très gros, très gras et qui participe à la gêne des échanges gazeux. Donc le diagnostic, le terrain homme de 50 ans, les expositions, les symptômes sont totalement aspécifiques et on a un tiers des patients qui sont asymptomatiques et la clinique est très pauvre. On va avoir de la toux, des expectorations éventuellement, de la dyspnée, quelques crépitants. Et c'est surtout la radiologie qui est vraiment l'élément clé et surtout le scanner thoracique. En radiographie thoracique standard, on va avoir des syndromes interstitiels qui sont classiquement diffus, bilatéraux, éventuellement en aile de papillon. Voilà d'autres exemples. Sur la radiographie thoracique de droite, c'est un peu plus dense, on a des opacités beaucoup plus denses, opaques, qui doivent faire évoquer une éventuelle surinfection. Là aussi, on en reparlera, l'infection, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, en scanner thoracique, voilà des scanners assez typiques. On a cet aspect de crazy paving, plus ou moins dense là aussi, avec cette superposition de verres dépolis, réticulations septales, des lignes septales, avec des réticulations intralobulaires. Donc voilà l'aspect vraiment typique. L'aspect en carte de géographie, des lobules sains qui côtoient des lobules malades, le verre dépolis et la superposition avec des lignes intralobulaires et des lignes interlobulaires. Donc voici le schéma qu'on a mis dans le PNDS et je remercie Mathieu Lederlin de ces belles images. Le crazy paving n'est pas pathognomonique. On a des diagnostics différentiels. Je vous ai listé ici les principaux diagnostics différentiels. Là aussi un tableau qui est issu du PNDS. En gras sont les diagnostics les plus fréquents. Donc on voit que notamment les infections peuvent donner du crazy paving. La pneumocystose et plus récemment depuis 4 ans maintenant le SARS-CoV-2. Certaines néoplasies, le bronchiole alvéolaire, qu'on va appeler maintenant adélocarcinome mucideux invasif, ou certains lymphomes du Malte, d'autres PID idiopathiques, et dans les autres pneumopathie, l'hémorragie intra-alvéolaire et les pneumopathies lipidiques exogènes peuvent aussi mimer un tableau de protéinose. Donc attention, le crazy paving est évocateur, mais pas pathognomonique. Quand on a ce scanner avec un crazy paving, ça doit faire évoquer la protéinose. D'ailleurs, généralement, les radiologues l'évoquent. L'étape suivante, c'est de faire le LBA, le lavage bronchio-alvéolaire, qui classiquement est laiteux, trouble. Il faut savoir y penser. Ce n'est pas forcément si simple que ça. Sur la photo de gauche, c'est un alicot qui a été pris au moment d'un grand lavage pulmonaire thérapeutique. Moi, mon écran a disparu. Donc, le LBA est laiteux macroscopiquement, mais c'est surtout sur un LBA frais, il faut penser à faire et le spécifier sur le bon de cytologie une demande de coloration PAS, Periodic Acid Sheaf. Les macrophages sont spumeux, donc les corps lamellaires, c'est seulement en microscopie électronique. Donc on a ce matériel éosinophile extracellulaire qui va prendre la coloration PAS. Si on faisait des immunomarquages protéines du surfactant A, ce serait positif également. Et donc ça ne peut être fait que sur du LBA frais. Donc ça, c'est vraiment important. On a été obligé plusieurs fois de refaire des LBA pour faire cette demande spécifique. Ça ne peut pas être fait sur des lames fixées. Donc, si on doit conclure sur le diagnostic de protéinose auto-immune, la présentation clinique, elle est peu spécifique. C'est vraiment le scanner, le porte d'entrée avec cet aspect de crazy paving. L'analyse du LBA avec la recherche de matériel PAS positif. Et pour confirmer le caractère auto-immun de cette protéinose, le dosage des anticorps anti-GM-CSF avec un envoi de tube à température ambiante sur le labo d'immunologie du CHU de Rennes. La biopsie pulmonaire est devenue maintenant rare, elle n'est pas recommandée, c'est vraiment exceptionnel d'avoir besoin. Donc j'insiste, 1, le scanner, 2, le LBA frais, et 3, les anticorps. Si on passe aux complications, je vais parler principalement de deux types de complications avec des travaux qu'on a pu coordonner au niveau national. Première complication, les infections. Donc plusieurs données de la littérature. Seymour, le premier en 2002, avait repris tout ce qui était publié depuis l'existence des protéinoses et on voit tout de suite que les bactéries ou les germes, en tout cas infectieux, sont souvent des germes assez atypiques, des mycobactéries, mais également des cryptocoques, des nocardia, de l'aspergillus. Punatar, 10 ans après, a repris également tout ce qui était publié et on retrouve les nocardioses au premier plan, les mycobactéries et un certain nombre de champignons ou moisissures, et une atteinte pulmonaire, mais également dans les atteintes extrathoraciques, l'atteinte cérébrale qui est au premier plan. Et récemment, le docteur Mabot est dans la salle, on avait repris tous les dossiers français. Donc à partir des dosages d'anticorps anti-GM-CSF, on a pu avoir 104 patients avec des PAP auto-immunes confirmés. 60 patients ont fait des infections, dont 23 des infections opportunistes. Et un des messages principaux est qu'on avait 10 cas de nocardiose, donc quasiment 10% des patients. Nocardiose dont la moitié était au diagnostic, donc sur le premier LBA on avait du nocardia, et la moitié avait des atteintes cérébrales, parfois asymptomatiques. Donc un des messages clés, c'est dès qu'on fait un prélèvement, un LBA, quand on évoque le diagnostic et dès l'évocation, et encore plus dans le suivi des patients, si on doit être amené à faire un LBA, il faut absolument faire des recherches bactériologiques, en tout cas microbiologiques assez élargies, notamment avec des germes à croissance lente, nocardia systématiquement, actinomycèse, cryptocoque, même en l'absence d'exposition, aspergillus et les mycobactéries. Voici un exemple de patient qu'on avait eu dans le service. Et vous voyez qu'en plus du crazy paving, on a cette condensation alvéolaire avec ce beau bronchogramme aérien sur l'image en bas à droite. Et si on prend son scanner cérébral, alors que le patient était asymptomatique, on avait des images d'abcès cérébraux. Le LBA était positif à nocardia farcinica, et donc on en a fait une nocardiose pulmonaire et cérébrale, et le patient a évolué favorablement. L'IRM, on voit mieux les abcès, c'est de plus en plus souvent demandé en première intention lorsqu'on a une suspicion d'abcès ou une recherche d'abcès cérébraux. Donc voici les images. Autre complication après les infections, la fibrose. Et dans la poursuite du travail d'Axel, Johan Guiriec a pris le même pool de patients. On est parti des 104 patients. Le but était d'avoir au moins deux scanners, un scanner au diagnostic, un scanner à au moins un an de suivi ou plus. Et donc on a pu avoir 61 patients, 45 sans fibrose et quand même 16 patients avec de la fibrose. 5 dès le scanner diagnostic, principalement de la bronchiolectasie de traction, et 11 patients qui vont évoluer vers une fibrose alors qu'il n'y en avait pas initialement. Donc ça nous montre quand même le pourcentage de fibrose dans cette pathologie à 26%, donc c'est finalement pas négligeable. Donc voici un exemple de protéinose avec une évolution sans fibrose et ici une évolution fibrosante avec les bronchiolectasies de traction qui sont très visibles. Ce n'est pas du rayon de miel en grande quantité, mais néanmoins une évolution fibrosante, donc pas si rare que ça. Quels étaient les facteurs associés à cette évolution fibrosante? L'âge, en gras, l'exposition aux poussières, vous voyez que c'était présent dans 64%, alors que c'était seulement présent dans 28% sans exposition aux poussières. On en reparlera. L'exposition aux poussières était ce qui était noté dans les dossiers ou sur la profession, principalement le BTP, donc quelque chose de très grossier, et un travail est en cours pour essayer de mieux caractériser ça. La dyspnée était plus importante, et la mortalité était également totalement différente. On atteignait un quart des patients qui décédaient lorsqu'il y avait une évolution fibrosante contre seulement 4% sans évolution fibrosante. Donc voici ce que ça donne, des graphiques qui ne sont pas catastrophiques, mais une mortalité tout de même plus importante. Donc une évolution fibrosante qui n'est pas si rare, des facteurs associés, et donc ce travail en cours prospectif où on va interroger les patients avec un interrogatoire beaucoup plus fin, une collaboration avec Sciences Po Paris sur un questionnaire qui s'appelle Silicosis et des matrices emploi-exposition pour essayer de mieux caractériser ces expositions et le sevrage des expositions dans l'évolution. Enfin, j'arrive au traitement. Cette diapo que j'aime beaucoup parce que c'est tiré du manuscrit de Ramirez, 1960. Donc, c'était le premier traitement qui a été proposé. Donc, vous voyez qu'il y avait 30 mg de codéine per os, puis un cathéter qui était implanté en transtrachéal à l'aveugle. Et on faisait couler du sérum physiologique tiédi, 50 à 60 gouttes par minute, ce qui déclenchait une violente toux pendant 45 à 70 minutes, et il y avait de temps en temps quelques crachats blancs, visqueux, qui ressortaient, et c'était les prémices du grand lavage pulmonaire thérapeutique. Donc cette procédure a été répétée 4 fois par jour pendant 2 à 3 semaines, en demandant aux patients de se mettre sur le côté droit, sur le côté gauche, sur le ventre, et donc voilà. Donc on a quand même un peu amélioré la prise en charge thérapeutique. Dans les recommandations internationales, il y a un algorithme thérapeutique qui a été fait. Donc, la méthodologie était la méthodologie GRADE, donc avec des recommandations fortes, des recommandations conditionnelles et des avis d'experts. Et vous voyez qu'en vert, on a seulement 2 items avec des fortes recommandations. Donc, tout d'abord, un élément majeur, quand on parle de protéinose alvéolaire, c'est de faire appel à un centre expert. Il faut absolument prendre contact avec un centre expert. On revient à ce qui a été dit sur le topo précédent, sur les maladies kystiques, sur les maladies rares en général, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter un centre expert. Deuxièmement, ce qui n'apparaît pas suffisamment à mon sens dans les recommandations internationales, mais lié à la méthodologie GRADE, il n'y a pas de travaux randomisés, contrôlés pour faire disparaître le tabac ou l'exposition aux poussières. Donc dans les recommandations françaises, on l'a plus mis en avant. Le sevrage tabagique et l'éviction des aérocontaminants est majeur. C'est vraiment le premier item de traitement, ce qui peut expliquer qu'il y ait des améliorations spontanées, sans traitement particulier, entre 17 et 25% chez les patients. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ces deux éléments-là, on a les traitements de première intention, et là aussi, pour la première fois, à côté du grand lavage, WLL, c'est Whole Lung Lavage, à côté des grands lavages pulmonaires thérapeutiques, on a le GM-CSF inhalé, on va en reparler. Donc les grands lavages pulmonaires thérapeutiques, ça reste la pierre angulaire du traitement, qui sera indiquée notamment pour les patients les plus sévères, puisque c'est ce qui amène une amélioration la plus rapide. Donc là aussi, des équipes entraînées, sous anesthésie générale, intubation sélective, donc il faut des équipes qui aient l'habitude de travailler sur de la chirurgie thoracique, curarisation du patient, du sérum salé isotonique tiédi, entre 10 et 50 litres par poumon, des lavages contralatéraux parfois dans la même session, alternance de décubitus dorsal, latéral droit, latéral gauche parfois, sur des tables rotatives, ce qu'on ne fait pas à Rennes, de la percussion thoracique manuelle ou mécanique, ce qu'on ne fait pas non plus, et parfois le recours aux ECMO. L'efficacité globalement est à plus de 70% avec des complications qui sont globalement mineures. Il y a quand même un ou deux cas de décès qui sont présents dans la littérature, même s'il y a probablement un biais de publication sur ces décès. Donc voici les bronchocates qu'on utilise à Rennes, des bronchocates gauches, systématiquement gauche puisque la voie distale va se mettre dans la bronche principale gauche et à droite il y a la lobaire supérieure droite, donc en fait on peut les enfoncer, les positionner beaucoup mieux quand c'est à gauche, donc on fait tout le temps des bronchocates gauches, quel que soit le poumon qu'on nettoie, et vous voyez ici, donc c'est l'extrémité de la sonde, la voie blanche proximale va sortir dans la trachée au-dessus de la bronche principale droite, la voie bleue, la voie distale, le ballonnet va se gonfler dans la bronche principale gauche, et là c'est pour ventiler ou laver le poumon gauche. Donc en pratique, comment ça se passe? Vous avez cette sonde qui est positionnée dans la trachée. On va gonfler les ballonnets. Donc vous avez la voie proximale ici, la voie distale ici, et on va ventiler un poumon pendant qu'on lave un autre. Je ne sais pas s'il n'y a plus de piles dans le truc, mais ça ne marche pas très bien. Voilà. Et on fera l'inverse quand on lavera l'autre poumon. Donc voilà comment les patients sont installés. Nous, on fait ça en réanimation médicale. Certaines équipes font ça au bloc opératoire. Vous avez ici la voie distale, la voie bleue, qui ici est ventilée, donc reliée au respirateur. Ici, la voie proximale, la voie blanche, qui est lavée. Et vous avez les poches de 3 litres de sérum physiologique tiédi. Et on va remplir le poumon par gravité. Quand c'est plein, ou généralement sur la première instillation, on s'arrête à 1 litre, on va ensuite clamper ce qui remplit, déclamper pour remplir les bocaux progressivement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez le début du lavage avec le dépôt blanchâtre, ce qui vous fera moins aimer les pina colada après le topo. Donc on voit ce dépôt de matériel vraiment lipoprotéinacé, très dense, ça se dépose progressivement, et au fur et à mesure du lavage, ça s'éclaircit. Voici les multiples bocaux chez ce patient qui était très fort tabagique et beaucoup de cannabis. Il a fallu beaucoup le laver, et il a été amélioré dès le premier poumon lavé. Donc là, le dernier en date, il y a quelques semaines, le patient avait été malheureusement intubé et ventilé sur une surinfection probablement bronchique qu'on n'a pas documentée. On a lavé les deux poumons dans la même session, ce qu'on fait d'habitude sous ECMO, mais là on l'a fait pour essayer de réduire le temps de ventilation, ce qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Donc vous voyez ici le poumon droit avec le premier alico et de moins en moins de dépôt et de plus en plus clair, et le poumon gauche ensuite, qu'on a fait à la suite, le patient étant un SDRA, ça avait été compliqué. Donc on a du crazy paving parfois peu dense, parfois beaucoup plus dense, et ça c'était un patient de Brest, le premier patient qui a été lavé sous ECMO, avec ici monsieur de Laval et notre anesthésiste vedette pour les protéinoses, Jean-Paul Lenormand. Donc le premier ECMO, un patient qui venait de Réa à Brest, qui avait été contacté par Christophe Gutgobert. Donc des ECMO, on est en train de voir là aussi pour avoir des critères qui nous permettent, c'est un travail en cours, la thèse de François Pichard. Donc j'espère qu'on va avoir des éléments qui nous aideront à mieux appréhender cela. Donc vous voyez ici l'effluent, le liquide vraiment très opaque qui ressort quand on est en train de vider le poumon qu'on vient de laver. Dans les recommandations nationales, l'efficacité des grands lavages, donc on a clairement une efficacité sur la PAO2, une efficacité sur la DLCO, et qui nous a fait dire que c'était à fort niveau de preuve, donc une forte recommandation pour faire des grands lavages quand il y a une anomalie des échanges gazeux chez un patient symptomatique ou avec une atteinte fonctionnelle. Dans les protéinoses auto-immunes, on n'a pas pu se prononcer dans les protéinoses non auto-immunes. Le deuxième traitement, c'est le GM-CSF inhalé. Inhalé pourquoi ? Parce que les méta-analyses anciennes montrent bien que la voie inhalée est supérieure à la voie sous-cutanée. On a 3 essais publiés, randomisés, contre placebo, donc des essais à haut niveau de preuve publiés récemment, entre 2019 et 2020, ce qui nous a permis, dans les recours internationaux, de bien positionner. On a une efficacité claire en méta-analyse sur le gradient alvéolo-artériel, sur la PAO2, sur la DLCO et sur les volumes. Et donc, depuis, on a pu en plus avoir les résultats à l'ERS il y a un peu moins de 2 semaines, l'étude Impala 2 qui vient encore plus renforcer l'efficacité du GM-CSF. Donc, je vous rappelle, une étude avec 164 patients randomisés en 1 pour 1 entre molgramostim inhalé une fois par jour et placebo. Une efficacité sur la DLCO qui est très claire, sur le score de sévérité qui diminue, sur la qualité de vie qui s'améliore, et sur une amélioration à gauche sur le scanner thoracique, à droite sur le recours au grand lavage pulmonaire thérapeutique. Donc le GM-CSF est positionné au même niveau que les grands lavages pulmonaires thérapeutiques chez les patients qui ont une protéinose auto-immune confirmée. Après les publications, la publication et donc la méta-analyse avec la méthodologie GRADE, un autre papier est paru, le papier d'Ilaria Campo, monocentrique en Italie, mais il y a un seul centre en Italie qui gère toutes les protéinoses de tout le pays. Ils ont randomisé 18 patients qui venaient d'avoir un grand lavage pulmonaire thérapeutique en 9 patients sans GM-CSF, les patients de gauche, et 9 patients avec du GM-CSF inhalé pendant 6 mois, je crois, et ensuite un suivi. Et vous voyez, le critère de jugement principal était les grands lavages pulmonaires de sauvetage, ce sont les carrés rouges. Dans le bras, pas de GM-CSF, beaucoup de lavages de sauvetage, et dans le bras GM-CSF, un seul lavage de sauvetage assez tardif. Donc l'étude est très positive, également sur la PAO2, le gradient alvéolo-artériel et la DLCO. Donc, reste à savoir comment on va positionner le GM-CSF après un grand lavage. Tout ça, ça va faire partie des débats. Je vais passer assez vite sur les autres traitements. Le rituximab, on a une série de 10 cas et un cas clinique des collègues de Bichat qui avaient montré une efficacité. Donc on est sur des choses assez habituelles. Un gramme J1, J15, éventuellement un entretien tous les 6 mois ensuite. Visiblement, quand on arrête le rituximab, ça rechute. L'équipe de Kavourou aux États-Unis avait présenté 10 cas, donc une amélioration de la PaO2, des volumes et une diminution des anticorps circulants avec une amélioration. Donc, résultat, le rituximab est positionné en troisième position après grand lavage et ou après GM-CSF inhalé. Pour les plasmaphérèses, ça arrive en quatrième position, recommandation conditionnelle également. Uniquement des cas cliniques, 9 cas cliniques dans la littérature, une efficacité globalement qui n'est pas certaine pour tous. Ça permet au moins de manière à peu près certaine d'espacer les grands lavages pulmonaires. Il y a quand même des patients qui en ont tous les 2 ou 3 mois, des patients jeunes éventuellement. Et chez un certain nombre de patients, il y a quand même eu des améliorations notables et donc une recommandation conditionnelle. On s'est quand même mouillé dans le groupe de travail puisqu'on a bien précisé qu'il fallait que les patients restent symptomatiques, nécessitent une oxygénothérapie d'au moins 4 litres après au moins 2 grands lavages pulmonaires thérapeutiques et après avoir essayé le GM-CSF et le rituximab. Donc c'est vraiment en toute dernière position. Et si tout cela échoue et qu'on a une évolution notamment fibrosante, la transplantation pulmonaire, avec les mêmes critères que d'habitude, je passe assez rapidement. Voilà par exemple une patiente avec une évolution fibrosante très certaine, majeure. Ce n'était pas une protéinose auto-immune, mais une mutation GATA2, qui malheureusement n'a pas pu être transplantée pour des raisons autres. Les autres traitements, je vais passer. Le pioglitazone, il y a un signal. Les statines, il y a un signal, mais je passe. Donc la PAP en 2024. Sur le plan diagnostic, je vous ai dit le scanner en premier porte d'entrée, le LBA macroscopiquement, mais surtout le PAS qu'il faut faire, qu'il faut prescrire tout de suite, et les anticorps anti-GM-CSF si on veut prouver l'étiologie auto-immune. Traitement, le grand lavage pulmonaire thérapeutique un peu talonné par le GM-CSF, puis les 2 autres traitements qui viennent ensuite. Juste avant de conclure, de vous remercier, je tenais quand même à partager cette nouvelle. Il y a eu une sortie de presse sur le nérandomilast, qui est quand même la première molécule dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Ça fait 10 ans qu'on attend ça, parce que le nintedanib et pirfenidone, ça fait 10 ans que c'est sorti. Toutes les études depuis étaient négatives. On a quand même enfin une autre molécule qui devrait être... donc les résultats complets seront publiés en début d'année 2025, mais on a une troisième molécule qui va arriver dans notre pharmacopée contre la fibrose pulmonaire idiopathique. Je vous remercie pour votre attention.
Est-ce que vous avez des questions pour Stéphane ?
Merci à Stéphane pour cette présentation. Dans ton expérience, est-ce qu'il y a des professions qui doivent nous alerter ?
Alors, je pense que toutes les professions empoussiérantes doivent nous faire tiquer. On vient de mettre au point un questionnaire de dépistage de l'exposition à la silice avec l'équipe d'Alain Lescouade qui travaille énormément sur ça et la sclérodermie systémique. On vient de le mettre en place là en début de semaine ou fin de semaine dernière. Je dois avoir 5-6 patients qui viennent de le remplir. Il y a des patients, on sait, ils travaillent dans le BTP. On s'attend à ce qu'il y ait une évolution, une exposition à la poussière. Mais en DMD, et là, chez un patient électricien, il y a plein de oui dans l'exposition à la silice et d'autres professions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et on se retrouve avec au moins un oui. Donc, il y a une exposition à la silice. Donc, dès qu'il y a une exposition empoussiérante, il faut y penser. Mais ce n'est pas si simple que ça. Le questionnaire silicosis de Sciences Po Paris, c'est 1 heure d'interrogatoire avec le patient. Donc c'est pas très adapté avec la pratique courante. Ce questionnaire-là, il fait 1 page recto-verso. C'est très rapide à remplir pour les patients. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de le faire diffuser parce qu'il est encore sous embargo avec Sciences Po Paris. Et nous, on a eu l'autorisation de l'utiliser parce qu'on ne publiera pas tout de suite avec. Mais ce sera certainement quelque chose à transmettre largement à la communauté pneumologique pour mieux dépister l'exposition, notamment à la silice, pour ce questionnaire-là.
Avec le GM-CSF, finalement, vous voyez moins de formes à laver ou...
Alors, le positionnement, on l'a mis au même niveau. À mon sens, on est sur 2 profils quand même assez différents. C'est-à-dire qu'on va avoir les patients qu'on diagnostique en hospitalisation, qui ont besoin d'oxygène, qui sont d'emblée sévères. Ceux-là, à mon avis, il faut commencer par un grand lavage. Après, la question, avec le papier d'Hilary Campo, c'est est-ce qu'il faut embrayer tout de suite sur du GM-CSF dans la semaine qui suit le grand lavage? C'était ça, le papier. Ça, la question reste en suspens, je dirais. Et après, il y a les patients qui vont être diagnostiqués en consultation. On les voit, ils ne sont pas forcément oxygéno-requérants, mais ils peuvent avoir une DLCO pour la dernière étude, Impala 2, c'était moins de 70% de DLCO. Donc il y en avait quand même un certain nombre qui n'étaient pas oxygénodépendants. Et c'est vrai que ces patients-là, si on leur diagnostique une protéinose, s'ils sont quand même invalidés, j'ai une patiente de 40 ans qui vient de Dijon, qui est prof au collège et qui dit « je ne peux pas courir, je ne peux pas faire le sport comme je veux, je suis gêné à la fin de mes journées de cours, je suis épuisé voilà, », elle a 65-60% de DLCO, ça l'impacte dans sa vie quotidienne. Là, c'est vrai qu'on se dit, c'est des patients comme ça, ils n'ont pas besoin d'aller au grand lavage pulmonaire thérapeutique, on va leur prescrire du GM-CSF. Donc c'est un peu comme ça que je le positionnerais. On a vraiment, à mon sens, deux typologies de patients. Les plus sévères, je pense qu'il faut rester sur les grands lavages, encore une fois avec des équipes entraînées, sinon ça peut être un peu la catastrophe.
Pour la petite histoire, il y avait la photo avec M. Delaval et Jean-Paul Lenormand, l'anesthésiste. Là. Il y a Graziella qui est dans la pièce. C'était l'anesthésiste le moins stressé qu'on ait jamais vu. Je pense que c'est pour ça que M. Delaval le prenait avec lui, d'ailleurs. Parce que quand on faisait des brocorigides, il parlait, il nous racontait plein de trucs. Puis à un moment, on était obligé de lui dire « mais le patient, il est bleu, là. Ah oui, merde.
Pour les grands lavages, c'était un peu la même chose. Il y a des fois, ils partaient discuter avec les infirmières à droite à gauche, et des fois, le patient se réveillait de la curarisation, commençait à tousser, il y avait du liquide qui passait dans l'autre poumon. On s'est fait des petites frayeurs, quand même.
Bon, eh bien, merci beaucoup. J'espère que la matinée vous a plu. Merci, Stéphane. Et je crois que c'est l'heure du déjeuner.